l'entrée des coulisses, le podcast en trois rubriques qui vous offre une bulle d'évasion et de culture. Je suis Isabelle, artiste et médiatrice culturelle, et je serai votre guide dans les coulisses. Vous allez découvrir des artistes, apprendre plein de détails sur la vie artistique et culturelle de tout horizon. Vous me suivez ? Allez-y, on y va.
Bon, j'en ai des questions, c'est super intéressant.
En fait, moi j'ai eu la sensation que là, avec toi, on a vraiment partagé un moment.
Merci beaucoup à vous pour cette occasion de partager avec vous mon parcours et c'était un grand plaisir pour moi.
C'est pas facile de se livrer non plus parce que c'est quand même un travail assez introspectif et très personnel. Et donc je te remercie pour m'avoir laissé la possibilité d'en parler.
Merci pour tes questions qui sont super judicieuses en fait.
Merci beaucoup et merci beaucoup pour l'invitation et merci pour ce podcast qui est vraiment très intéressant à chaque fois en tout cas.
Oh, merci beaucoup.
Voici le programme de l'épisode 3 de la saison 4. Amis artistes, tendez l'oreille, les autres aussi bien évidemment, mais derrière la première porte des coulisses, vous allez rencontrer Stéphane, qui exerce un métier méconnu auprès des artistes, et Stéphane exerce aussi un hobby plutôt étonnant.
Si je vous dis pop pom pom boy.
Oui, je suis pom pom boy également voilà. dans ma tenue de caméléon.
Derrière la deuxième porte, c'est Élise Giuliani qui vous attend. Élise, elle est humoriste et elle a beaucoup de choses à vous partager. Elle a plein d'énergie, vous allez l'entendre.
J'ai toujours aimé faire des trucs, un max de choses. Je déteste m'ennuyer. Je pense que c'est ma plus grande peur. Et donc, toute petite, ouais, la scène, c'est venu par la danse. Donc, c'est justement l'envie de mouvement.
Et puis, Marion Lorgnet, de Théâtre en mille et un lieux, ouvrira la dernière et troisième porte. Et cette fois, elle vous dit tout, ou presque, sur une bataille.
Comment l'année 1830 a révolutionné le théâtre ? Le 25 février 1830 se déroule à Paris la plus fameuse bataille que n'aient jamais livrée les hommes de plume et les artistes. Elle reste connue sous le nom de Bataille d'Hernani.
Allez-y, en coulisses. C'est sur LinkedIn, le réseau social des professionnels, que j'ai repéré Stéphane Cognam. Stéphane est posturologue. Il exerce ce métier peu connu, principalement auprès d'artistes et de sportifs. Voilà pourquoi je me suis dit que ce serait intéressant qu'il vienne en parler au micro de l'entrée des coulisses. Vous allez donc découvrir son métier, grappiller quelques conseils au passage, suivre son parcours et découvrir son hobby. Très inattendu pour un homme, un hobby chargé de sens, quasi militant même. Bonne écoute.
Stéphane Cognam, je suis posturologue pour artistes.
Alors Stéphane, bienvenue dans l'entrée des coulisses.
Merci.
Posturologue pour artistes. Alors c'est un métier dont on entend peu parler. Alors, je vous propose d'abord d'expliquer d'une manière un peu générale en quoi consiste le rôle d'un posturologue pour artiste et on va approfondir après.
Ok, merci pour l'invitation et bonjour à toutes et à tous. Alors, posturologue rapidement pour artiste, c'est de comprendre et de chercher les raisons des douleurs qui persistent depuis très longtemps auprès des artistes et ou les baisses de performance.
Est-ce qu'on peut dire, pour résumer, que le rôle du posturologue, c'est d'aider des professionnels de l'art à maintenir une posture optimale, je vais dire, pour améliorer leur pratique, pour réduire certainement aussi des blessures liées à leur pratique, c'est ça aussi ?
C'est ça aussi. En fait, l'idée, c'est surtout de permettre aux artistes d'éviter d'aller à répétition voir des kinés et ostéos et de traîner des douleurs qui existent depuis très longtemps. en général causée par des dysfonctionnements de capteurs posturaux, d'où l'idée de faire un bilan postural avec l'artiste qui a donc ses douleurs à répétition, et donc découvrir ce qui dysfonctionne, je vais pas dire ce qui fonctionne pas, mais qui dysfonctionne, et qui souvent a été compensé pendant de nombreuses années, sur lequel l'artiste a eu des signaux, par-ci par-là, une petite douleur, mais qui est passée vite, effectivement au niveau performance, tiens c'est bizarre, cette fois-ci j'ai mon en dehors en danse ou mon geste à l'instrument ou aujourd'hui ma performance a été moins bonne ou des maux de tête etc. Enfin il y a toujours des petits signaux qui arrivent et on compense et il y a un moment le corps il en a marre d'envoyer des signaux qui n'ont pas été entendus et il lâche. Donc l'idée c'est d'arriver à comprendre ces douleurs, cet historique des douleurs, et de trouver les causes. Et quand on trouve les causes, on peut les soigner.
Alors petite question perfide. Pourquoi moi, en tant qu'artiste, je devrais aller voir un posturologue plutôt d'abord qu'aller voir mon kiné ou mon ostéopathe, par exemple?
Eh ben parce que votre super kiné, votre super ostéopathe, il va soigner vos conséquences. Donc il va soigner, vous avez mal, et donc du coup il va soigner votre douleur. Mais il va pas chercher la cause de votre douleur. Alors j'ai des très bons amis kinés et ostéo qui ont fait aussi de la posturo. Les rendez-vous posturo durent 1h30. D'accord. Une consultation, ça dure 1h30. Je ne connais pas beaucoup de kinés et d'ostéos qui font des consultations 1h30 individuellement par patient. Quelques-uns en font, mais pas tous, et en tout cas, c'est rare. Et certains ont un peu abandonné la posturo parce que justement ça prend beaucoup de temps. Pour en connaître beaucoup, souvent ils sont un peu parasités un peu par leur expérience. Oui. C'est-à-dire qu'un ostéo qui a fait de la posturo, il y a de grandes chances pour que le problème postural vienne des articulations. Voilà, parce qu'il est déjà formaté par son métier. Un podologue posturo, ça arrive souvent aussi qu'un podologue posturo, il va faire un bilan postural, il va dire le problème vient des pieds. Mmh. Voilà. Donc moi, j'ai aucune appétence pour une ou autre approche. Je suis vraiment global. Mon diplôme originel, c'est ergonome. Donc, j'ai vraiment une vision globale de la situation et de mon opérateur, on va dire, de mon patient. Je vais pas dire arrêtez d'aller voir les kinés et ostéo, bien au contraire. Surtout si vous vous rendez compte que vous allez voir votre kiné ou votre ostéo à répétition et que vous n'avez toujours pas de carte de visite gratuite après 12 visites, arrêtez d'aller voir kiné et ostéo à répétition. Si ça ne marche pas, c'est que le problème vient d'ailleurs. Et donc, dans ce cas-là, allez voir un posturo pour régler le problème.
Qui sont les artistes qui viennent vous consulter? Vous vous occupez de qui exactement? Des musiciens, des danseurs?
Alors, je m'occupe de tout type d'artistes, qu'ils soient professionnels ou amateurs.
Oui.
J'ai beaucoup de musiciens, de danseurs et de chanteurs.
Oui.
Quelques comédiens, des modèles vivants, des peintres, des sculpteurs. Et des circassiens et circassiennes.
D'accord. Ah oui, effectivement. Vous faites tout le prisme des métiers artistiques, quoi.
Tout à fait, tous les métiers artistiques. Et c'est vrai que certains ne se pensent pas artistes, parce qu'effectivement, des fois, quand on est simplement dans une association sportive ou artistique, je pense à l'association sportive parce que la danse est considérée comme un sport.
Ouais.
Et quand on en fait 2 heures par semaine dans une association, on s'estime pas artiste. Sauf que il y a les galas au bout des 3 mois, il y a le gala de fin d'année, il y a le petit spectacle pour le Noël ou pour la fête de l'école, etc. Et en plus, donc ça fait beaucoup de pression, beaucoup de travail. Souvent, c'est une activité qu'on a après le travail. Et si en plus on a éventuellement une vie familiale, en gros, on est levé à 6 heures du matin, on s'occupe des enfants, on va travailler 8 heures par jour.
Oui.
Puis après avoir couché les enfants, on va à la répète de 2 heures de théâtre ou de danse.
Oui.
Donc en gros, on finit à 22 heures. C'est une grosse activité et tout ça, ça rentre en ligne de compte dans le bilan postural.
D'accord. Donc justement, ce bilan postural, comment vous faites pour évaluer les soucis de la personne que vous avez en face de vous. Il y a toute une batterie certainement de techniques, peut-être d'outils.
On a tout un protocole hein, en posturologie. Donc d'abord avec ce qu'on appelle une anamnèse. Donc l'anamnèse permet vraiment de poser des questions dans un vrai protocole validé par l'OMS et par différentes approches thérapeutiques, qui permet de comprendre l'historique du patient et notamment l'historique de sa douleur. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les douleurs ont une histoire et elles ont envoyé plusieurs fois des signaux et elles sont souvent arrivées à des moments précis. L'idée, c'est surtout de découvrir cette histoire de la douleur avec le patient et la patiente, qui permet souvent d'arriver aussi à ce que le patient et la patiente arrivent aussi à comprendre un peu mieux quand sont arrivées ces douleurs, pourquoi elles sont arrivées, qu'est-ce qui dysfonctionne. Au bout de ces questionnaires qui durent en général une demi-heure, trois quarts d'heure, puis on prend le temps de comprendre, c'est ça aussi le but, c'est de poser, de comprendre et de prendre du recul sur tout ça. Après cela, le posturologue fait des tests qui sont validés par l'OMS, donc les tests de Fukuda, le test de Sion, enfin voilà, il y a pas mal de tests. Alors on fait pas tous les tests, sinon on en a pour une dizaine d'heures, on va dire. Et les réponses au questionnaire permettent d'orienter justement vers tel ou tel dysfonctionnement, et les tests vont confirmer ou infirmer ce qui ressort de l'anamnèse, et ce qui permet de comprendre quel est le ou quels sont les capteurs postureux qui dysfonctionnent avec le patient.
D'accord. Les tests dont vous parlez, alors sans entrer dans les détails, sans les présenter vraiment, c'est des tests d'observation corporelle, je suppose ?
Ouais, donc il y a beaucoup d'observations corporelles, mais il y a beaucoup de tests qui sont en pratique avec le patient. Donc par exemple, le test de Fukuda, c'est par exemple de marcher sur place. Moi, j'appelle ça le test de la majorette zombie. en fait, les patients doivent marcher sur place. Avec les genoux élevés, donc un peu comme une majorette, et avec les yeux fermés et les bras allongés à l'horizontale. Et ce qui permet de tester des dysfonctionnements de capteurs posturaux au niveau podal, au niveau des yeux, etc. Donc ça fait partie d'un test, par exemple. Donc il y a beaucoup de tests qui sont vraiment pratiques. Et moi, je les adapte vraiment à mes patients, notamment parce que ça permet, comme l'anamnèse, de se rendre compte par soi-même. Parce que moi, je le vois, en tant que posturo, c'est mon métier. Donc, je vois dès que la personne est en tenue de sport, short et brassière ou t-shirt, ou dos nu, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on voit déjà. Donc, l'idée, c'est vraiment que ce soit plutôt le patient ou la patiente qui comprenne de lui-même ou d'elle-même ses difficultés et comprennent pourquoi ces difficultés sont là et qu'est-ce que ça occasionne dans la vie de tous les jours, pas uniquement en étant artiste, mais aussi dans la vie de tous les jours.
Bah oui, c'est normal, on n'a qu'un seul corps.
Donc... Il faut en prendre soin tous les jours et on n'utilise pas que quand on est artiste.
Voilà, c'est ça, on l'utilise aussi dans la vie.
C'est ça.
Alors, dites-moi, une fois que le diagnostic, on va dire, est posé, qu'est-ce qui se passe après pour ces artistes, ces sportifs? Vous préconisez une thérapie, un traitement, qu'est-ce qui se passe ?
Alors en fait, il y a des choses qui peuvent se faire par soi-même parce que souvent certains artistes sont déjà dans une démarche proactive de santé. Donc ça peut être par exemple avec une diététicienne ou un diététicien, naturopathe, mais aussi kiné, ostéo, etc. Donc dans ces cas-là, l'idée c'est plutôt d'emmener le patient vers d'autres thérapeutes, parce que moi je suis pas soignant, hein, je suis posturologue, donc je ne suis pas médecin, ni ostéo, ni kiné, c'est pas mon métier, chacun son métier et tout le monde le fait très bien. Et donc l'idée c'est plutôt d'orienter le patient ou la patiente vers le bon thérapeute. En l'occurrence, par exemple, souvent quand on a, on sait par exemple que les douleurs qu'on a au niveau des lombaires, qu'on appelle communément le lumbago, sont souvent au niveau des vertèbres L4, L5 et S1, donc vraiment tout en bas, et que 90% des nerfs qui arrivent au niveau de ces trois vertèbres proviennent de la plante des pieds. Donc souvent, on dit que voilà, quand on a mal au dos, les personnes disent « Ah mais t'as pas de semelles, mais va avoir des semelles, va voir un podologue qui va avoir des semelles, ça va être super ». Sauf qu'en posturologie, on sait bien que c'est d'abord l'œil qui dirige le pied. Et donc l'œil regarde 300 millisecondes avant, donc l'endroit où va se poser le pied. Donc, d'une manière posturale, si il y a un problème au niveau des pieds, c'est que souvent il y a un problème au niveau des yeux. Donc, ça ne va servir à rien, en l'occurrence, d'aller voir un podologue pour avoir des semelles, parce qu'effectivement, ça va arranger les choses pendant 2-3 semaines. Mais le problème va revenir, puisque le problème ne vient pas des pieds, mais il y a de grandes chances pour qu'il vienne des yeux.
Oui, la vraie racine, c'est les yeux. C'est pas
le vrai problème vient des yeux. Et encore, peut-être que le problème des yeux vient des dents ou vient des oreilles. Mais ça, c'est le travail du posturologue. Et donc, d'aller tout de suite faire des semelles, ça ne sert à rien. Mais d'abord, de regarder s'il y a un problème au niveau des yeux, ça, c'est la priorité. Et donc, si au niveau des tests posturologique, on constate qu'il y a un dysfonctionnement au niveau d'un des yeux. Le but, c'est plus d'aller voir un orthoptiste qui là va travailler sur la musculature des yeux et donc va régler le dysfonctionnement postural, puisque souvent, honnêtement, dans quasiment 70% des situations que je vois, c'est souvent un problème d'œil. Et donc, du coup, l'orthoptiste va régler ça. Donc, on se revoit 6 semaines après le premier rendez-vous avec l'orthoptiste, le patient et moi. D'accord. Et là, on refait rapidement des tests pour savoir si tout est réglé ou pas.
OK.
Et voilà. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a trouvé la cause au départ. Donc, même s'il faut aller faire 10 séances d'orthoptie et avoir des semelles pendant quelques mois et avoir quelques séances de kiné, et ben, au moins, on sait qu'après, ce sera fini. Voilà, c'est ça l'idée.
Effectivement. Quelles sont les erreurs courantes que vous voyez chez les artistes en ce qui concerne leur posture ? Par exemple, le problème le plus courant chez une violoniste, par exemple.
Alors, c'est vrai que mon travail initial, c'est donc d'analyser, de faire le bilan postural. Après, j'accompagne bien évidemment mes patients, alors pas sur un accompagnement thérapeutique. Ça, c'est les autres, mes autres collègues praticiens qui le font. Oui. Mais par contre, après, au fur et à mesure, quand on a réglé le problème postural, moi, j'accompagne mes patients sur la respiration, sur le travail, ce qu'on appelle la posture zéro, posture debout, zéro, équilibre. La posture assise également, donc ce qui est intéressant pour les musiciens et musiciennes qui sont notamment en orchestre. Et puis le geste instrumental. Et donc, pour répondre à votre question, effectivement, souvent, par exemple, si on prend des violonistes, souvent il y a la vrille de la ceinture scapulaire, donc des épaules par rapport au bassin, et le port de tête. Et l'un des premiers conseils que je peux, on va en profiter, on va donner un petit conseil aux musiciens et musiciennes qui sont là, qui vont écouter, poser, que ce soit un instrument avant, un cuivre ou un instrument à cordes, etc., évitez d'avancer la tête vers votre instrument. Posez d'abord votre instrument sur votre bouche, voilà, ou sur vos épaules, voilà, et après votre tête s'installe. Mais quand on a un instrument comme à hanche, voilà, ou à embouchure, souvent ce qu'on voit, c'est l'instrument arrive et la tête avance dans l'instrument. N'oublions pas qu'une tête, ça pèse entre 5 et enfin à peu près 5 kilos. Donc si vous la mettez vers l'avant, plus elle est lourde. Donc voilà, une tête à peu près à 10 degrés commence déjà à peser entre 7 et 12 kilos. Donc plus vous la penchez, plus elle est lourde. C'est pareil pour le violon. Plus vous allez pencher votre tête sur le côté, plus elle va peser lourd, plus elle va tirer sur votre cou, plus elle va tirer sur vos vertèbres cervicales, et plus vous allez avoir un déséquilibre au niveau des épaules. Donc l'idée, c'est vraiment de garder cet équilibre. Et donc souvent, on apprend avec mes patients à déjà amener l'instrument vers les lèvres ou vers le cou en ayant les yeux fermés.
D'accord, par exemple pour le cas des violonistes, mais par exemple, nous, moi je suis plutôt plus dans le théâtre, par exemple, est-ce que vous constatez des choses très particulières chez les comédiens, comédiennes ?
Oui, vous savez pas respirer. Donc, mais comme beaucoup de musiciens et danseurs et danseuses, hein, donc en fait, vous êtes souvent en apnée, sans vous en rendre compte, mais aussi en vous en rendant compte des fois. Le plus souvent que j'entends en consultation, c'est ah oui, je sais. Voilà, mes patients disent souvent je sais. Donc ça, c'est bien. C'est déjà un premier pas. Il y a au minimum 3 foyers de respiration. Puis on a une respiration abdominale, hein, diaphragmatique. Donc d'abord, on respire par le ventre, après par la cage thoracique et aussi après par le cou, enfin, en tout cas au niveau du cou et de la langue. Et donc il y a ces trois phases d'inspiration et d'expiration, ces trois foyers de stockage donc de l'air et du dioxygène. Mmh. Et donc faut apprendre ça. Et je veux pas dire que quasiment la moitié des artistes que je vois ne respirent que par la cage thoracique, mais c'est quasiment le cas. Mmh. Donc déjà rien que de travailler déjà sur sa respiration et de comprendre ces trois phases de la respiration, c'est déjà un grand pas pour l'homme et un immense pas pour le monde artistique.
Certainement. Stéphane, vous êtes un véritable caméléon des métiers. En faisant un peu de recherche sur vous, comme je fais toujours pour mes invités, j'ai vu que vous aviez été donc interprète en langue des signes, manager, inspecteur des services, syndicaliste. Alors du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir posturologue, qui est quand même un métier assez original? Quel a été votre parcours, votre chemin jusqu'à ce métier actuel?
Oh là, il faudrait 3 heures de podcast.
Ah zut, je vais résumer. Vous avez raison, c'est sûr.
Je vais résumer. En fait, il y a un moment, j'ai travaillé pour accompagner les artistes dans le cadre de l'île 2004, capitale européenne de la culture. Mmh. Et en travaillant dans ce domaine-là, j'ai découvert l'envers du décor. Du milieu artistique que je connaissais pas du tout, et c'est vrai qu'on va tellement voir des artistes et il y a plein de paillettes, plein de lumière, et on applaudit et c'est fabuleux, et que dans le monde derrière le backstage c'est quand même beaucoup plus difficile, et quand on le connaît pas, moi j'avoue que je me suis pris une vraie claque. Et donc je me suis dit là il faut quand même faire quelque chose. Et au fur et à mesure de chercher quoi faire, j'avais mon diplôme d'ergonome à la base, et ce qui interprète en langue des signes m'a pas beaucoup aidé, hein, donc même si je rencontre des artistes sourds, donc ça m'aide dans ces cas-là. À chercher un peu ce que je voulais faire et comment aider les artistes, je me suis renseigné, j'ai passé un diplôme de médecine des arts sur Paris, donc qui est un diplôme privé, hein, par une école privée. D'accord. Mais qui permet quand même de comprendre beaucoup plus les problématiques médicales et thérapeutiques des artistes, notamment plutôt musique, parce que c'est un diplôme vraiment orienté musique, mais qui était très intéressant. Et après, au fur et à mesure, de me dire mais qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je peux faire pour les aider, et au fur et à mesure de rencontrer les artistes, je faisais déjà un peu d'ergonomie entre guillemets, donc pour adapter l'environnement de travail des artistes dans les classes. J'ai accompagné pas mal de quelques structures, des écoles de musique sur l'organisation du travail, etc. Et de fil en aiguille, les artistes que je côtoyais m'ont dit ouais mais là j'ai vraiment mal, j'arrive pas à trouver de solution, etc. Et donc au fur et à mesure j'ai cherché un peu qu'est-ce qui permettait vraiment de répondre à leurs besoins. Et donc j'ai trouvé posturologue, et donc je suis allé à l'école de posturologie médicale globale des Hauts-de-France. D'accord. Pour passer mon diplôme de posturologie médicale. Et là, vu que je suis un vrai caméléon, en posturologue, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de problématiques de douleurs qui viennent de l'émotionnel, donc de la thématique émotionnelle. Ouais. Alors soit parce que des traumas viennent, il y a eu des traumas qui ont été oubliés ou en tout cas compensés par le corps. Ouais. Soit il y a la situation en tant que telle qui est tellement stressante que ça occasionne des dysfonctionnements posturaux. Et donc là, je continue ma mutation de caméléon. Et donc j'ai entamé une formation de coach mental, de préparateur mental, coach neuropsychologique pour artistes. Okay. Pour pouvoir vraiment justement accompagner les artistes dans ces problématiques émotionnelles.
Je mettrai le lien vers votre site, comme ça, si ça intéresse les artistes qui nous écoutent, parce qu'il y en a pas mal, ils pourront toujours vous consulter. Alors, vous êtes plutôt du côté de Lille, je crois.
Oui, dans les Hauts-de-France, mais je me déplace beaucoup. Hein. Je vais à Marseille, Nice, Bordeaux, Toulouse, je vais en Suisse, il n'y a aucun problème.
Ok. En plus d'être caméléon, pigeon voyageur.
Okay. C'est un caméléon voyageur.
Une dernière petite question. Au fond, qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier?
Oh, waouh! Au fond, je pense que c'est de prendre soin des artistes, de me dire que s'ils peuvent continuer, s'ils et elles peuvent continuer à faire, à prendre plaisir à ce qu'elles font et ce qu'ils font et sans se faire mal, c'est un peu grâce à moi. Mais le plus gros du travail, c'est l'artiste qui le fait. Moi, j'ouvre juste les portes et j'aide à prendre conscience. Et après, voilà, je continue à accompagner. Mais après, quand je vois certains de mes patients qui recommencent à jouer parce que certains ont arrêté depuis 6 mois, 1 an, parce qu'ils avaient trop mal et qu'ils ont abandonné la musique ou abandonné la danse ou abandonné le chant, et que voilà, ils recommencent. Ouais. Franchement, voilà, je me dis bon, bah voilà, j'ai permis ça et tant mieux. Après, le gros travail, c'est pas moi qui le fais. Mais je pense que c'est ça l'intérêt pour moi et c'est pour ça que j'aime mon métier, c'est que je pense que ça aide vraiment les artistes.
En fait, j'ai un peu menti, c'était pas forcément la dernière question. Mais on va sortir un petit peu de tout ce qui est posturologie, ça se dit,
c'est
posturologie.
Ouais, c'est ça.
Mais j'en parle parce que vous en parlez vous-même sur votre site, par exemple. Si je vous dis pom-pom boy.
Oui, je suis pom-pom boy également, voilà. Dans ma tenue caméléon.
Parce que, alors effectivement, c'est votre passion, enfin votre hobby aussi à côté. Alors, on connaît très bien les pom-pom girls, mais il y a ces pom-pom boys au sein du Screamage People.
Yeah.
Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Moi, j'ai trouvé ça hyper amusant. J'ai vu quelques images sur le site. C'est amusant, c'est drôle. Et en même temps, ça parle quand même d'un sujet bien moins futile.
Tout à fait. Oui, effectivement, donc dans mes différentes mutations, je suis également pom-pom boy. Donc, au sein des, effectivement, comme vous l'avez dit, du collectif qui s'appelle les Screamage People. Aujourd'hui, on est à peu près 17 hommes, alors 6, bi, non-genre, etc., ouais. Hétéro, homo, etc., qui sont attachés au Roller Derby Lille. Le Roller Derby, c'est un match, enfin un sport de badass, voilà, donc sur roulette. Si vous ne connaissez pas, allez vraiment taper Roller Derby sur Internet et vous verrez, c'est fabuleux.
Ouais.
Et en fait, en 2016 a été créé un collectif donc de mecs au sein du roller derby. Au début, plutôt les mecs des joueuses, voilà, qui comme ça pour blaguer, s'en dit ah, ce serait intéressant.
On est d'accord que le roller derby au départ c'est plutôt féminin.
Ah, c'est un sport féminin. Base, hein. Le roller derby, c'est un sport féminin. Donc, il y a même des ligues qui interdisent les équipes masculines, parce que c'est un sport féminin et féministe. Et donc, le but de ce collectif, c'est nous, hommes, de soutenir les joueuses de roller derby. Donc, on danse pendant les mi-temps pour soutenir les joueuses. Donc, on inverse les rôles. Voilà, on soutient également les autres sports féminins. Donc, le handball féminin, le basket féminin, le volley féminin. Le rugby féminin, enfin donc partout où on veut nous inviter justement pour casser les codes. Quand on parle de changer les codes, c'est aussi changer les codes au niveau du sport féminin parce qu'il y a encore beaucoup, malheureusement encore trop d'hommes qui estiment que certains sports n'ont pas à être féminins.
Ouais,
et puis de casser aussi les codes des hommes qui sont dans les tribunes ou dans le public pour dire ah oui, donc en fait il existe des hommes qui font aussi du pom-pom et c'est vachement fun, c'est intéressant et souvent ils viennent nous parler pour nous dire mais pourquoi vous faites ça, c'est quoi le message, etc.
Ouais.
Quand on a dansé et qu'après on est dans le public encore avec nos shorts rouges, nos bretelles et voilà, et que parce qu'on va pas se travailler tout de suite, on reste exprès dans le public avec nos tenues de pom-pom.
Ouais.
Donc c'est là où il y a des parents qui viennent nous voir, voilà, donc des papas qui viennent nous voir aussi avec des fois leur petit garçon ou leur petite fille. Ça va travailler dans leur mentalité, ils l'ont vu, des fois ils font des selfies avec nous, donc c'est super. Et si les auditeurs auditrices du podcast veulent en savoir plus, il y a une série documentaire sur Sisplay.
Ouais.
Donc sur vos box ou sur internet, vous tapez sisplay.fr ou vous allez sur la partie Sisplay de vos box et vous tapez Pom Pom Boy. Voilà, et il y a 4 épisodes de 26 minutes qui permettent de découvrir les messages qu'on passe, notre histoire, pourquoi on a été créé et les messages qu'on fait passer. En fait, ça permet vraiment aussi de montrer. C'est vraiment un série documentaire familial, donc voilà, et ça permet vraiment aussi de montrer que aujourd'hui, être un homme, c'est il n'y a pas un genre d'homme, quoi. Voilà, enfin. Et voilà, donc n'hésitez pas.
Vous œuvrez à votre manière pour faire évoluer les mentalités concernant les stéréotypes. Et c'est une question extrêmement actuelle en ce moment. Et voilà, et les mentalités ont besoin d'évoluer. Voilà.
Tout à fait. Donc, merci beaucoup, de l'aborder. Et comme on le dit auprès des Scrimmage, on passe un message sérieux sans se prendre au sérieux.
Et ben voilà, c'est là-dessus qu'on va terminer. Merci beaucoup, Stéphane. Merci. Que dire, bon pom-pom boy et belle consultation à venir.
Merci beaucoup et merci beaucoup pour l'invitation et merci pour ce podcast qui est vraiment très intéressant à chaque fois en tout cas.
Oh, merci beaucoup. Vous trouverez dans la description de l'épisode les liens vers le site de Stéphane et vers les vidéos des Scrimmage People. Et voici la deuxième porte des coulisses à explorer. Élise Giuliani est humoriste, Italo-Ch'ti, comme elle le dit dans son spectacle, et Élise, ou Speedy Élise, elle a de l'énergie à revendre. Mais dans ce studio d'enregistrement cosy, elle s'est installée calmement et nous avons papoté autour des thèmes de l'enfance, de la famille, du choix de vie et de son travail artistique, évidemment. Et cette fois-ci, sans aucun chat entre nous. Vous comprendrez si vous écoutez l'interview jusqu'au bout.
Bonjour, je suis Élise Giuliani et je suis actrice.
Élise, que se passe-t-il pour toi dans les coulisses ?
Alors, les coulisses, c'est un vrai petit rituel. Moi, j'aime bien quand il y a des gens. Il y en a qui ont vraiment besoin d'arriver une heure avant, de se concentrer. Moi, j'aime bien arriver le plus tard possible. Par contre, il faut que j'aie le temps de faire mes exercices de prononciation, ça c'est hyper important, et mes exercices de respiration. Souvent, je mets de la musique. Dans le portrait chinois, on parlait de Wake Me Up, souvent je mets Wake Me Up Before You Go Go et je mets une playlist qui me réveille. Je me fais des mouvements pour me réveiller les muscles. Et il y a mon manager qui est là, on va dire, 99% du temps. Donc, il vient, on a un petit rituel de j'ai une poupée de Blanche-Neige dans ma valise de costume. Et le truc, c'est de faire un bisou à Blanche-Neige, qui est consentante pour le coup, qui est réveillée, avant que je monte sur scène. Et moi, je suis plutôt dans la... Je suis concentrée, mais c'est plutôt un lieu de vie. C'est pas un lieu de stress pour moi. C'est plutôt un lieu où j'ai hâte d'y être, quoi. C'est plutôt... J'aime bien être dans les coulisses. Mais j'ai hâte d'être sur scène, surtout.
Alors, Élise, on s'est déjà parlé, en fait, et dans le cadre de ce podcast. C'était dans la saison 3, je crois, épisode 1. J'avais fait un zoom sur les coulisses du Festival d'Avignon. J'avais fait d'ailleurs un petit reportage sur, qui montrait des coulisses un petit peu sombres, un petit peu pas terribles pour les compagnies. Et j'avais vu sur Instagram ta joie d'y avoir participé et ta joie que ce se soit bien passé. Donc du coup, je t'ai contactée très gentiment, tu as accepté. Donc on s'est déjà parlé à ce moment-là. Et on avait déjà un petit peu parlé de ton spectacle qui était déjà une belle bourrine.
Absolument.
Voilà. Alors Élise, maintenant c'est ton tour d'être au micro de l'entrée des coulisses. Et avant que nous papotions plus précisément de ton parcours, de ton spectacle qui est actuellement à l'affiche au moment où nous enregistrons, et de papoter de différentes autres petites choses que je t'ai concoctées, j'aimerais faire un petit tour d'horizon sur tous tes savoir-faire, compétences que j'ai listées.
Ça va être un bazar pas possible parce qu'il n'y a aucune cohérence.
Alors... Ah, attends. Alors, Élise, tu es danseuse, modèle, voix off, humoriste, comédienne. Pour la petite histoire, tu as joué dans des clips, dont celui de Amir. Tu as fait une apparition dans des séries TV, dont Emily in Paris. Je le cite parce que ça a eu un sacré succès. Tu as joué dans des courts-métrages, dont certains en tant que réalisatrice. Dans des films... Le dernier en date, c'est 2020, si je ne me trompe pas, c'est Goliath de Frédéric Tellier. Tu as joué aussi dans des publicités. Tu joues du piano,
tu chantes, tu pratiques la danse, enfin différents types de danse, dont notamment la pole dance, parce que tu publies de temps à autre des vidéos sur Instagram qui sont très impressionnantes. Et pour compléter le tout, c'est déjà bien riche, hein, tu pratiques plein de sports.
Ouais.
Bon, le patin, niveau basique, mais ça compte. C'est ce que tu marques, hein, niveau basique, ça compte. Alors Élise, après toute cette liste, quelle petite fille étais-tu? Est-ce que tu avais déjà cette appétence pour le mouvement, pour le jeu, dans le sens te mettre en jeu?
Ouais, énormément. Toutes les activités là, bon, peut-être pas la pole dance, mais la danse en tout cas, ça vient d'il y a longtemps. J'ai démarré quand j'avais 5 ans, la danse, et j'ai toujours fait plein de trucs artistiques. Le piano, ça date à peu près de la même époque. Et vu que j'étais une petite fille assez hyperactive, un peu comme aujourd'hui.
Étonnant.
C'est peu dire. Du coup, je faisais plein d'activités à côté de l'école. Donc, j'avais vraiment besoin de faire des spectacles, du piano, du solfège, du théâtre. Et au-dessus de tout ça, j'adorais faire des spectacles avec ma cousine, me déguiser. J'ai eu la chance d'avoir une mamie couturière et une maman qui a aussi appris la couture, donc des costumes dans tous les sens. Donc ouais, j'ai toujours aimé faire des trucs, un max de choses. Je déteste m'ennuyer. Je pense que c'est ma plus grande peur. Et donc toute petite, ouais, la scène c'est venu par la danse. Donc c'est justement l'envie de mouvement. Mais après le mouvement, j'ai eu envie de pouvoir parler.
Oui.
Donc le théâtre est venu assez rapidement. Parce que la danse c'est super. Hein. Je suis ravie d'avoir démarré. Je pense que ça donne une discipline hyper importante dans la vie future. Mais c'est quand même bien aussi de pouvoir un petit peu dire ce qu'on pense. Et en danseuse, souvent, c'est très rigide.
Ah, c'est sûr qu'on ne parle pas trop, quoi. Enfin, on s'exprime différemment.
On s'exprime par le corps, ce qui était hyper important pour moi. Mais j'avais vraiment besoin de parler aussi. Mmh. Donc le théâtre est venu assez rapidement, le piano aussi.
Donc ton métier actuel, on peut dire qu'il prend racine dans cette enfance.
Ouais, complètement. Et en fait, ce qui est marrant, je pense qu'on est beaucoup à être dans le cas, c'est que moi j'étais sûre de vouloir être actrice ou en tout cas de vouloir être sur scène.
Ah oui, déjà t'es petite à l'école quand on demandait là qu'est-ce que tu veux faire plus tard.
Je pense que sur les fiches là qu'on écrivait, je pense que je mettais danseuse ou comédienne. Je mettais en tout cas être sur scène, un truc comme ça. Sauf que c'était pas forcément la volonté de mes parents. Ouais. Ce qui fait que j'ai eu un long moment de virage où je suis allée sur autre chose avant de revenir dans mes premières amours. Mais j'étais convaincue, moi, que c'était ce que je voulais faire. Il y avait aucun doute là-dessus. Mais c'est pas un métier qui rapporte, c'est un métier compliqué. Donc quand je suis venue à Paris faire des études de théâtre et tout ça, en parallèle, mes parents ont voulu que je fasse des études normales.
Ouais.
Et donc, c'est ce qui m'a un peu éloignée de toute cette vie de mouvement pendant quelques années. Mmh. Mais j'y suis revenue au moment où c'était sans doute le bon.
Bon moment. Mmh. Tu viens d'une famille d'artistes, même en amateur?
Pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout. Je viens de la famille la plus conventionnelle, dans le bon sens. Très vie de famille extrêmement importante. Moi, je suis d'origine italienne, donc la famille, c'est extrêmement à cœur de tout le monde.
On va en parler un petit peu tout à l'heure.
Ça marche. Je suis de maman institutrice, papa dentiste de campagne. Donc, pas du tout artiste, mes frères non plus, personne. Vraiment, c'était un peu le vilain petit canard de vouloir pas faire des études conventionnelles et tout ça. C'était, puis même rien qu'à l'école, de dire, moi je veux m'inscrire, je veux faire de la danse et du théâtre et du piano à côté. Oula, c'était pas...
Ça faisait peur.
Ouais, ça faisait peur.
Et du coup, c'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui t'a donné ce goût pour la danse, la comédie, le spectacle? Ça te vient d'où?
Mes parents filmaient beaucoup quand j'étais petite.
Ouais.
Et j'ai des films de moi maternelle où déjà je faisais des trucs de danse et j'adorais quand il y avait le spectacle de l'école, par exemple. C'était
Oui, c'était vraiment ton moment.
Ah ouais, c'était le Broadway la classe de maternelle. Sauf que pour la danse, je savais que je voulais faire un truc artistique, mais la danse, c'est très précis. En fait, donc j'ai deux grands frères qui regardaient beaucoup les dessins animés à la télé. Il y avait un dessin animé de foot. Moi, ça me saoulait de regarder des trucs de foot, mais il y avait un dessin animé qui s'appelait L'École des Champions, et où la copine du personnage principal était danseuse. Et donc, je me suis dit, en fait, il y a un truc un peu pour les filles quand même dans ce dessin animé. Mais je pense que deux jours après, j'ai dit à mes parents, je veux faire de la danse. Donc, c'est bizarre, c'est à cause d'un
dessin animé.
Un manga, ouais.
Un manga, ouais.
Une série, ouais, manga, dessin animé.
Comme quoi?
Très près. Et je vois encore l'image de la danseuse. Je me dis, c'est trop beau, je veux faire ça.
Alors. Aujourd'hui, c'est la facette d'humoriste qui prend le dessus dans ton parcours. Mais qu'est-ce que tu faisais avant d'être artiste? C'est quoi ton chemin professionnel pour arriver jusqu'à aujourd'hui?
Ben, déjà, j'ai toujours fait du théâtre et de la danse, donc ça toute petite. Je suis venue à Paris pour être comédienne. Mmh. J'ai fait un conservatoire. À côté, je faisais des études tout à fait classiques. Et ben, au conservatoire, j'apprenais beaucoup les classiques, justement, les alexandrins. Donc, c'était vraiment un parcours académique de base, mais j'avais quand même déjà une appétence pour la comédie. Sauf que quand j'ai fini mes études normales à côté, qui étaient marketing et com, où il y a quand même un truc aussi de représentation, hein, c'est pas pour, par hasard que j'ai choisi ça, j'ai eu un premier métier qui m'est tombé dans les mains. Dans une grosse agence de pub, je me suis dit, bon, c'est quand même bien, je l'ai même pas cherché, ce métier me tombe dessus, allez, je le prends pendant un an. Et en fait, ben, j'ai bossé pendant 8 ans dans des boîtes qui n'avaient rien à voir avec mon envie première.
Oui, voilà. Ouais.
Donc j'ai fait agence de pub, j'ai fait aussi beaucoup de marques de luxe, j'ai fait du L'Oréal, du LVMH, enfin plein de choses, Grande Épicerie de Paris, plein de choses comme ça. Et en fait, bah, on se dit la crise de la trentaine c'est un mythe, mais en fait pas du tout. Moi, voyant la trentaine arriver, j'étais en stress total, je me suis dit je passe à côté de ma vie, c'est pas du tout pour ça que je suis venue à Paris. Et ce qui a fait le déclic, c'est qu'il y a une époque, je bossais pour Giorgio Armani et je gérais les tournages. Et en fait, je voyais que tout ce qui me plaisait d'être quand je bossais pour cette marque, c'était quand j'étais sur les plateaux de tournage. Dès que je devais rentrer au bureau, j'étais en déprime absolue. Ouais. Je me suis dit, bon, ben, y a peut-être un truc quand même qui se révèle. Et pour mes 30 ans, alors que j'étais une dingue de mode, j'aurais pu dire, je veux des Louboutins, j'en sais rien, je me suis dit, allez, je veux un stage de cinéma au Cours Florent. Ah, donc je flippais parce que ça faisait 8 ans que j'avais pas joué.
Ouais.
Donc j'ai fait ce stage à Noël. C'était un déclic absolu. Et là, la rentrée de janvier, quand il fallait retourner au travail, c'était horrible. Et ben, ça a mis quelques mois le temps que je puisse vraiment faire mon inscription. Et là, j'ai décidé d'arrêter mon taf et d'être à 100% côté acting. Donc ça a été pas évident comme décision à prendre. Je dirais plus de la dire autour de moi. Moi, c'était clair qu'il y avait une urgence d'arrêter mon taf et de reprendre ce que j'aimais. Mais c'était plus pour l'annoncer aux parents, alors que clairement, je dépendais plus d'eux. Hein.
Tu as choisi d'être, comme on dit aujourd'hui, d'être aligné avec tes rêves.
Ouais,
aligné
complètement.
Avec toi.
Mais j'avais vraiment l'impression d'être à côté de moi. Il y a vraiment ce truc de ne pas être dans ma peau, de regarder ma vie qui se passait. Et c'était plus tenable. Donc, alors, quand j'ai pris la décision, pour le coup, ça allait très vite. Je me suis inscrite au Cours Florent. Il y a eu quelques mois avant que la rentrée commence. Mais le jour où j'ai décidé d'arrêter mon taf, ben, en 3 jours, j'avais quitté mon taf, quitté mon mec de l'époque et quitté mon appart en 3 jours.
Ah oui, oui.
Ouais, c'était
la mue totale.
Ouais. Et moi, quand il y a des trucs durs à faire, j'aime bien les faire d'un coup.
Ouais.
Et tout rassembler. Comme ça, au moins, après, c'est fait, c'est derrière et puis on avance, quoi.
Toujours dans le mouvement.
Ouais, complètement.
qu'est-ce qu'il te reste de cette vie d'avant, de ces métiers d'avant?
Ben, en fait, malheureusement, l'intermittence ne rapporte pas beaucoup d'argent, donc régulièrement.
Ouais.
Bah ouais. C'est pas facile, donc régulièrement, je dois refaire des missions en freelance pour un peu renflouer le porte-monnaie.
Ouais.
Et en ce moment, justement, j'en fais une à côté de mon taf de comédienne. Et c'est mon ancien métier qui me permet de sauver les meubles quand vraiment c'est la galère financière. Donc là, je reprends, je fais de la production de contenu pour une marque de spiritueux. Et donc, ça me permet quand même d'être encore en contact de réal, de photographe, tout en ayant mon spectacle et les autres activités. Donc voilà, ça fait des grosses semaines, mais au moins, je
bien
m'ennuie
chargé,
pas.
Bien chargé, ouais, c'est sûr.
Ouais, c'est bien chargé.
Donc aujourd'hui, c'est la facette d'humoriste qui a pris le dessus dans ton parcours. Tu avais donc envie de faire rire les gens, quoi.
Ouais, et même quand j'étais... Je parlais tout à l'heure des spectacles de maternelle et tout, mais même en primaire, on doit faire des spectacles de fin d'année. Et moi, je faisais que les trucs débiles, quoi. Les trucs où il fallait faire rire. Quand je faisais beaucoup d'émissions de radio, de fausses émissions de radio avec mon petit...
Ah, pas bien,
truc à cassette.
Pareil. Mon podcast, c'est né à cause de ça aussi.
Voilà. Ouais. Donc, ça, moi, j'ai adoré faire des blagues, des trucs complètement... niveau intellectuel le plus bas possible. Et en fait, quand j'ai repris le Cours Florent, ils ont ouvert une classe de one-man show. C'était l'année test. C'était un premier test au cours Florent. Une classe animée par Étienne de Balazi, qui a quand même un gros nom dans le métier. Et je me suis dit, ouais, j'ai jamais fait ça, mais j'ai vraiment envie. Donc, je suis allée m'inscrire au truc où, premier cours, on était, je pense, 60, quoi. C'était l'enfer. Ouais. On savait qu'il allait y avoir une compétition pour qui allait rester. Oui. Donc, je me suis dit, bah, on est 60. Il faut qu'il en reste peut-être 15. Donc, semaine prochaine, je passe un sketch. Je n'avais jamais écrit de sketch de ma vie. Et je me suis dit, vas-y, allez, je passe. Enfin, j'avais écrit des blogs. En fait, j'avais des bouts de trucs. Mmh. Mais j'avais jamais joué un sketch devant quelqu'un. Mmh. Donc, une semaine après, après, j'ai appris mon texte et je me suis mise à passer le sketch en étant dans un stress absolu. Et finalement, il y a aussi les gens de la classe qui ont compris que, c'est une classe d'écriture aussi. Faut pas juste jouer, faut écrire. Et donc, ça a écrémé un peu les non motivés. Mmh. Et au final, la sélection naturelle s'est faite par les plus motivés sont restés. Ouais. Et on a fini l'année, à 10-15 et c'était super. Donc, c'est ça quand même qui a été aussi mon premier pied plus professionnel dans l'humour, d'apprendre vraiment comment se structure un sketch, quelles sont les scènes ouvertes où on peut jouer. Mmh. Et après cette classe-là, après le cours Florent, j'ai fait l'école du one-man show. Et c'est ça qui m'a vraiment permis d'écrire le spectacle et de voir que c'est un vrai métier aussi, humoriste. Il faut se prendre des bides, voilà. Faut être face à ses doutes, plein de choses.
Ouais. Bien sûr, c'est un vrai métier, humoriste. Complètement. Tu as des modèles d'humoristes, des artistes dont tu aimes le travail?
Énormément. Et en fait, j'adore plein d'humoristes, mais il y en a vraiment quelques-uns qui, pour moi, se détachent du lot, en tout cas par rapport à mes goûts perso. Moi, j'adore Aymeric Lompré. C'est très foufou, il y a un peu de loufoque, c'est quand même un peu... Alors, dans le côté cool, dans le côté positif, c'est un peu beauf, mais moi j'aime bien les trucs qui sont la vraie France, les trucs où il n'y a pas de filtre et tout ça. Puis il vient de Lille, donc vu que je suis moitié ch'ti, ça me tient à cœur. J'adore Baptiste Le Caplain. Ouais. Lui, c'est pour le côté foufou sur scène. Je pense qu'il perd 10 kilos à chaque représentation, il court partout. Et c'est très dans l'énergie, c'est fou, il y a beaucoup plus d'absurde qu'avant. Et j'adore de ouf. Et après, alors c'est pas forcément dans le style d'humour, mais dans quelqu'un où je sens qu'il y a de la discipline énorme derrière, c'est Alex Lutz, parce que lui, pareil, il a une formation de danse aussi d'ailleurs. Oui. Et on voit que c'est un super comédien. Et tout est tenu à la virgule près, au geste près. Et j'écoutais l'autre jour un podcast avec Panayotis Pasco qui disait que dans les sketchs, il y a un détail dans un sketch d'Alex Lutz qui l'a marqué, c'est qu'à un moment, il ne parle pas d'emballage, il parle d'opercule dans son sketch. En fait, la précision du mot,
exact.
C'est tellement bien trouvé que tout de suite, on se voit, c'est dans un casting, on voit directement le directeur de casting. Enfin, c'est très imagé par le choix de ce petit mot qui est hyper précis. Et Panayotis aussi, j'aime beaucoup d'ailleurs. Dans un autre style d'humour, mais il y a trop d'humoristes.
Oui, certainement, il y en a plein, forcément.
Mais bon, il n'y en a que quelques-uns qui en font vraiment leur métier, finalement.
Oui. Mais justement, la scène des humoristes aujourd'hui, elle se conjugue enfin au féminin.
Ouais.
On commence à sortir de la longue domination masculine avec, pendant très longtemps, une quasi-totalité d'humoristes hommes. Mm-hmm. Blanche Gardin a été la première femme à recevoir le Molière de l'humour en 2018. Ouais. Donc, c'est hyper récent. Et puis, il y a toute cette nouvelle génération d'humoristes femmes dont tu fais partie. Et initialement, quand même, être humoriste, c'était... être un homme. Mm-hmm. J'ai l'impression qu'une femme ne pouvait pas être drôle, ou si elle l'était, ça justifiait des réflexions du type « Ah ben, t'es drôle pour une fille
ouais. »
ou « T'es belle pour une comique quand même, t'es pas trop moche.
Ouais. »
Alors toi, Élise, quel regard tu portes en tant que femme sur la scène de l'humour ? Est-ce que toi, tu as été victime de sexisme en tant qu'artiste humoriste ? Quel est ton regard sur tout ça ?
En fait, clairement, c'était un métier d'homme jusqu'à il y a peu, ce qui était plutôt à notre avantage, parce qu'on était tellement peu nombreuses que dès qu'il y avait un comedy club, il fallait qu'il y ait au moins une fille, donc on était régulièrement appelées.
Le quota réglementaire.
Le quota, exactement, pour la représentation des femmes. Donc ça, c'était plutôt le truc qui jouait en notre faveur. Sauf qu'aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de femmes aussi. Oui. Ça devient la même compète qu'entre les hommes, je dirais. Donc, il y a du plus, il y a du moins bien. Côté ce qui a pu être dérangeant étant femme, c'est que des choses que... j'ai un humour un peu gras, un peu rentre-dedans. Et parfois, certains mots que j'emploie ou certaines expressions je pense, passerait mieux dans la bouche d'un homme, malheureusement. Ouais. Enfin, du point de vue d'un certain public. Hein.
Oui, bien sûr.
Parce qu'une femme, ça ne doit pas être vulgaire, ça ne doit pas être... Il y a des choses qu'une femme ne doit pas dire. Et ça, moi, je le sens quand même. Notamment dans certains concours où on va considérer que, par exemple, un homme qui parle de sexe, c'est normal. Une femme qui me parle de sexe, c'est pour faire genre et pour se montrer, pour faire un peu différent des autres. Non, c'est parce qu'en fait, ça fait partie de la vie aussi et que moi, je parle de ce qui est naturel et je parle pas que de ça, en plus. Mais je trouve qu'il y a vite des amalgames qui sont faits. Une humoriste peut pas tout faire comparé à un humoriste. Je sens quand même qu'il y a un truc qui change, hein, mais qui est pas encore tout à fait 50-50, quand même. Après, ce qui est, je pense, pour l'instant, plutôt cool de mon côté... par rapport à la compète qu'il y a entre les femmes, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui font du stand-up pur.
Oui.
Et justement, beaucoup de comedy club, du stand-up vraiment, je prends le micro et je parle comme si j'étais dans mon salon. Oui. Moi, je fais pas vraiment ça.
Non.
Donc pour l'instant, c'est bien, parce qu'on n'est pas trop nombreuses à faire un truc un petit peu cabaret, un peu sketch, un peu mélange, quoi, un peu hybride. Donc pour l'instant, je croise les doigts, on commence à être nombreuses, mais pas encore trop nombreuses à faire du sketch-up, comme on dit. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais oui, il y a encore des problèmes de pudeur. Ah là là, une femme, ça ne doit pas dire tout ça. Ça change, mais je pense qu'il faut plutôt, justement... En fait, plus on va me dire ça, il ne faut pas le dire, plus j'ai envie de le dire. Du coup.
Ouais, un petit côté... provoque, titiller.
Au contraire, ça va plutôt me donner envie d'aller encore plus dans cette direction-là.
Alors Élise, on va parler un petit peu de ton spectacle,
ouais.
Qui s'appelle donc Une belle bourrine, spectacle que j'ai vu il y a quelques mois déjà, au Théâtre Beau à Paris, et donc comme je le disais, à l'affiche au moment où on enregistre cet épisode. Alors, ton spectacle aborde plein de choses, mais aussi tes origines italo-chiti.
Ouais.
Alors, qui de ton papa ou de ta maman vient d'Italie et qui vient du Schnorr ?
Papa Schnorr, maman Italie. Maman est quand même née dans le Nord, mais d'une famille qu'on est dans les années fin 40, début 50. L'Italie du Sud est archi pauvre, donc ma grand-mère, ses frères et sœurs vont un peu en grand groupe dans le nord de la France parce qu'il y avait plein de travail sur les chantiers navals. C'était vraiment une époque où il y avait plein de recrutements, besoin de main-d'œuvre dans le nord. Ils vont tous là-bas, la plupart repartent en Italie, sauf ma grand-mère parce qu'elle venait de se marier avec son chéri. Elle avait aussi un petit peu envie d'être loin de sa famille. Et puis surtout, elle est tombée enceinte de ma maman. Donc elle, est restée en France. Et c'est de là que la branche Giuliani du Nord est née. Et que quelques années plus tard, ma mère a rencontré mon père sur la plage de Dunkerque. Surtout que ma mère n'avait pas le droit de sortir. Parce que famille italienne à l'ancienne, ma grand-mère lui imposait de rester à la maison. Elle n'avait pas le droit de sortir, à l'inverse de son frère. Hein, on reparle des différences hommes-femmes. Voilà. Mon oncle, lui, avait le droit de faire les 400 coups et ma mère, non, devait rester à la maison. Un jour, ma grand-mère l'autorise à sortir. Allez, tu peux sortir sur la plage avec tes copains, tes copines. Pas de mal, c'est là qu'elle rencontre mon père. L'amour fou, enfin le coup de foudre. Et ils sont ensemble depuis quasiment 50 ans.
Oh, c'est magnifique.
Ouais.
C'est fou. Sur une plage, alors que normalement, c'était interdit.
Ouais.
Et paf, la grande
aventure.
C'est dingue,
l'histoire est dingue. Ça pourrait être un film.
Oui, c'est super joli. C'est super joli. Mais d'ailleurs, à la fin de ton spectacle, tu évoques très joliment, d'ailleurs, ta grand-mère.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette dame que tu aimes particulièrement ?
Ouais.
Tu peux nous dire aussi ce qu'elle t'a transmis ?
Alors, il y a quelques instants, on parlait du côté un peu provoque.
Bon, ouais.
Ma grand-mère, reine de la provoque. déjà, le fait d'être un exemple bête, c'est que ma grand-mère a épousé l'homme qu'elle aimait contre l'avis de son père. Alors qu'à l'époque, déjà aujourd'hui, je pense en Italie du Sud, c'est compliqué, mais à l'époque, clairement,
absolument pas. Ouais.
Pas du tout. On écoute ce que dit le padré et puis voilà. On peut pas faire autre chose. Donc elle a été folle amoureuse de l'homme qu'elle voulait épouser. Donc elle s'est mariée contre l'avis de son père. Elle est allée en France contre l'avis de son père. Donc déjà une petite provoque assez forte. Clairement, à la maison, c'est elle qui portait la culotte, très diva et très rentre-dedans, très provoque. Enfin, c'est une grande dame qui m'a beaucoup inspirée, ma grand-mère. Et puis, elle m'a apporté ce truc d'avoir envie d'être toujours en compagnie. Chez ma grand-mère, à la méditerranéenne, il y avait toujours 10 personnes, quoi. Il y avait les copines qui venaient, qui repartaient, c'était un peu ouvert, tout le monde venait. Et donc, moi, j'ai connu ça, parce que ma grand-mère, pour la petite anecdote, vivait dans ma rue. Donc, on vivait à deux maisons d'écart, on vivait dans la même rue, ma grand-mère et moi. Donc, moi, j'étais tous les midis, je mangeais chez ma grand-mère. Quand fallait être gardée, c'était chez ma grand-mère. Enfin, elle m'a. Je dirais pas qu'elle m'a élevée, parce que mes parents m'ont élevée, mais elle était quand même là tous les jours pour s'occuper de moi. Donc, elle m'a aussi transmis cet amour des gens, d'être toujours dans faire des fêtes et tout ça. Donc, ça, beaucoup. Et puis, la débrouille, quand même, elle m'a apporté ce truc de... T'as envie de faire un truc, tu le fais, même si on n'est pas d'accord avec toi. Tu vas jusqu'au bout. À l'époque, à me changer de pays sans parler la langue, ça devait pas être simple du tout.
C'était très dur.
Ouais. Et puis, elle a quand même un truc... Il y a un truc artistique qu'elle m'a apporté. Ma grand-mère était couturière. Donc, elle a appris... Elle s'est débrouillée pour apprendre de manière académique la couture et tout ça. Et ça a été son métier quasiment jusqu'à la fin. En fait, c'était ce qui lui permettait de... Elle n'avait pas forcément besoin. À certaines années, elle avait besoin de travailler pour gagner suffisamment d'argent. Mais vers la fin, c'était plus une passion. Et elle a fait ça le plus longtemps possible parce que créer des trucs, c'était quelque chose qu'elle aimait beaucoup. Et c'est quand même pas pour rien non plus que j'ai bossé en mode pendant quelques années.
Comme quoi. Il n'y a pas de hasard, tout est lié.
Ouais.
Jolie histoire en tout cas. Et toi, comment tu ressens ces racines, ces deux cultures en toi? Est-ce que ça t'a laissé des traces, j'allais dire des tatouages émotionnels, artistiques depuis ton enfance? Tu viens de parler de ta grand-mère, donc là on a bien compris ce qui était resté, mais plus largement, de ton côté... Ch'ti, de ton côté italo?
Je sens vraiment les deux influences. En fait, le Nord, il y a quand même un truc aussi de... C'est une région où il n'y a pas beaucoup d'argent, où on est très tourné vers les autres, où on est un peu franc du collier aussi. Le carnaval Dunkerque.
Carrément, un lâcher-prise complètement. Total, quoi.
On est nature, donc il y a un peu le côté un peu plus... bourrin, d'où une belle bourrine, du Nord, qui s'est confronté au côté un peu plus... je fais ma diva à l'italienne. Donc, à ma grand-mère, c'était mettre des musiques à l'italienne, faire des vêtements. Et à côté de ça, ils grandissent à Dunkerque. Enfin, ma mère a grandi à Dunkerque, dans un truc très brut, quoi. Donc, il y a vraiment l'alternance des deux. Et même aujourd'hui, ça crée des situations marrantes où... Il y a les deux héritages qui se rencontrent. Là, ça fait très longtemps que je ne suis pas allée chez mes parents. Je vais chez mes parents ce week-end à Dunkerque. On sait très bien qu'on va avoir dans le week-end droit à du poche blé ou des croquettes de crevettes, parce que c'est une spécialité du Nord, et des raviolis faits par ma mère. Enfin, c'est tout bête, mais la nourriture, c'est quand même très représentatif d'une
hyper
culture.
Hyper important.
Complètement. Et donc, à Noël, on peut avoir le repas traditionnel français, on va dire le 24, et le 25, on va faire un truc à l'italienne, par exemple. C'est très... Il y a vraiment les deux. Et je dirais, le lien entre les deux, c'est quand même la famille, parce que dans le Nord, au-delà des clichés, il y a quand même ce truc de... C'est quand même des gens très généreux, où on n'a pas d'argent, mais on aide les autres. On va toujours aider les familles, les cousins et tout ça. Et ça, c'est très italien aussi.
C'est vrai.
Donc, cet amour de la famille, je l'ai ressenti des deux côtés. Et clairement, mon père, il a une famille qui est moins présente, mais il a trouvé une famille d'adoption par la famille de ma mère. Donc, on est très, très soudés. Et je dirais que un héritage aussi que j'ai eu de la culture italienne, c'est que... ma mère voulait pas que je fasse ce que je voulais. Donc, ça a été un peu le conflit de... en fait, moi, j'ai le droit de sortir comme mes frères. J'ai le droit de faire des trucs comme mes frères. Donc, cette culture à l'ancienne de... Faut faire attention. Une fille, ça doit se marier. Non, en fait, pas forcément. Donc, ça, c'était un peu le conflit, mais gentil, avec ma mère.
Sûr, normal. On est toutes passées par là, je pense. En tout cas, c'est très joli parce que dans ce que j'ai vu, et là en discutant avec toi, effectivement, je sens à quel point, quand on a deux cultures à faire cohabiter, c'est pas toujours évident. Y en a qui les font pas cohabiter, ou alors il y en a une qui prend plus le pas sur l'autre. Et chez toi, je trouve que c'est complètement en harmonie.
Ouais, et puis je trouve ça hyper important de prendre les deux. Il y a des défauts dans les deux côtés, mais autant prendre ce qu'il y a de positif et autant rire des défauts des deux côés aussi.
Bien sûr. Alors, Élise, on va parler un petit peu de ton spectacle. Les critiques sont super positives. Alors, sur Biéréduc, je suis allée voir, il y en a plus de 300 et j'ai relevé plusieurs adjectifs qui reviennent souvent. Alors, j'ai relevé déjanté, trash, sexy, dynamique, drôle, heureusement.
Ça, c'est cool.
Alors, dans la vie, moi, j'ai envie de te poser la question, Élise. Est-ce que tu es déjantée, trash, sexy, dynamique, drôle? Ou est-ce que cette Élise sur scène, c'est un personnage qui te permet comme ça de... d'exulter, d'exprimer une facette de toi peut-être un peu plus cachée?
Non, je pense que sur scène, je suis quasi comme je suis dans la vie. Franchement, c'est... Après, évidemment, c'est exacerbé parce qu'il y a du show. Je vais pousser les trucs dans leur retranchement, je vais aller au bout de la vanne. Mais dans la vie, oui, je suis assez pareil. Ce qui peut être parfois créer des situations bizarres. Par exemple, moi, j'ai bossé beaucoup en luxe.
Oui.
Clairement, je détonnais un peu parce que j'avais envie de faire des blagues sur les tournages. Je m'entendais bien avec les équipes de tournage qui, elles, étaient donc des prestas. Donc pas trop dans le moule Armani, L'Oréal et tout ça. Donc moi, j'avais plutôt tendance à sympathiser avec eux et à rigoler. Donc non, je suis assez proche de ça dans la vie. Et je pense que sur scène, je dirais que c'est même moi à 100% sur scène. Alors que dans la vie, selon certaines situations, je vais mettre un petit filtre. Oui. Quand je sens que pour certaines personnes, il faut faire un petit peu attention.
Voilà, c'est un petit peu too much. Donc voilà. On ne va pas froisser.
Exactement. Mais non, je pense que c'est complètement moi, en fait. Et c'est pour ça que j'adore être sur scène, parce que ça fait du bien aussi de pouvoir être à 100% soi-même.
De temps en temps, je propose aux auditeurs du podcast de poser des questions aux invités. Donc, très souvent, ils ne les connaissent pas, hein, mes invités. Donc, je mets quelques petites infos avant. Je partage des stories, des petits bouts de vidéos, etc. Et je pioche parmi les quelques questions que je reçois.
Ouais.
Là, j'en ai sélectionné deux. Une gentille et une un peu plus trash. Ah. Parce que je me suis dit qu'avec toi, je pouvais me permettre. Je peux me permettre.
Allez.
Alors... La gentille, alors c'est peut-être quelqu'un que tu connais, il s'appelle Christophe André.
Ouais, oh là là, Christophe, si tu nous écoutes, gros bisous, je l'adore. C'est un chouette gars, chouette gars.
Alors, Christophe te pose la question, comment fais-tu pour sans cesse évoluer dans ton spectacle?
Alors, puis il le sait parce que Christophe l'a vu 5 fois.
Ah oui.
Donc à la base, je ne le connais pas, hein, c'est un spectateur.
Ah, c'est chouette ça.
Qui était venu, on avait enregistré une émission pour Teva Comedy Show il y a un an.
Ouais.
Il était dans le public, c'était juste un extrait du spectacle, il a beaucoup aimé, il est venu voir le spectacle 5 fois, encore la semaine dernière. Et du coup, effectivement, il voit que le spectacle a beaucoup évolué. Déjà, il y a des besoins liés à l'actu, quand on voit que des choses sont un peu passées de mode maintenant et qu'il faut les réactualiser, donc ça, j'ai le devoir, je trouve, de le réactualiser. Il y a aussi que j'ai tendance à vite m'ennuyer, donc j'ai besoin aussi de renouveler le spectacle, parce que sinon, ça me saoulerait assez vite. Non, mais du coup, il y a ça, vraiment le besoin de ne pas m'ennuyer. Et puis, il y a des choses aussi, on voit ce qui fonctionne très bien et ce qui fonctionne un peu moins bien. Et puis, il y a aussi les nouvelles collaborations. Donc, au début, le spectacle, je l'écris toute seule. Au bout de quelques représentations, il y a Quentin Célin, mon premier co-auteur, qui a rejoint l'aventure, qui a permis de remettre un nouveau souffle au spectacle. Là, il y a quelques mois, je me suis associée en plus avec Sylvain Lacour, qui est le co-auteur de Thomas Angelvie. Donc lui, il a un côté très, justement, un peu plus stand-up. Alors, il a compris que je ne veux pas faire du stand-up, mais en tout cas, il me permet de pimper certaines vannes avec un truc plus moderne. Et donc, le fait d'avoir ces collaborations qui évoluent, ben, ça fait aussi évoluer le spectacle. Donc, oui, je pense qu'on est à la 15e version depuis le début.
Est-ce que tu ne t'en lasses pas?
Ce qui me permet de ne pas me lasser, c'est aussi le changement que j'ai fait au spectacle depuis le début. Il est devenu beaucoup plus participatif.
Oui.
Ce qui fait que chaque présentation est vraiment différente.
Oui, complètement.
Ouais,
ça dépend. Chaque public étant différent, les réactions sont différentes. Oui.
Il y a des gens qui viennent sur scène, donc en fonction de qui vient, le spectacle ne sera jamais le même. Et heureusement que j'ai ça, parce que sinon, clairement, je m'en serais lassée.
Bah oui.
Et si j'avais gardé...
Toi qui es dans le mouvement...
Bah voilà, j'aurais pas aimé. Et donc, j'ai besoin de... Enfin, le fait qu'il y ait ce truc participatif fait que de toute façon, je pourrais pas m'en lasser. Mais je sais très bien qu'il y aura encore une nouvelle version dans quelques semaines. C'est obligé.
Ouais, ça évolue tout le temps, quoi, de toute façon.
En fait, pour moi, quand je regarde la première représentation, même les 4 premières, c'est pas le même spectacle. Clairement pas. Pour moi, c'est un nouveau... Je dirais que c'est le même... Enfin, c'est le même spectacle. Le spectacle en soi, on va dire qu'il a ses fondations depuis 1 an et demi, alors que j'ai déjà joué quelque chose qui s'appelait Une belle bourrine avant, mais qui n'avait rien à voir. Donc, c'est une version carrément plus aboutie Enfin, je dirais que c'est quasiment un deuxième spectacle. En tout cas, ce deuxième spectacle actuellement, une version beaucoup plus aboutie par rapport aux premières représentations que j'ai eues. Ouais.
Est-ce que tu as le projet d'aller à Avignon, comme tu l'as déjà fait ?
J'aimerais beaucoup. À vrai dire, je devais y être en 2023.
Ouais.
J'avais même signé mon contrat, j'avais trouvé un super créneau, super théâtre, j'étais ravie. Sauf que bah, économiquement, il fallait quand même investir.
Ouais.
Je me suis retrouvée en décembre à me dire bah, « je n'ai pas du tout 10 000 euros sur mon compte ». Heureusement, la personne qui gérait la salle a compris. Elle m'a dit « il n'y a pas de souci, plein de monde qui veut ce créneau, donc t'inquiète pas, je vais le redonner
ouais, ».
Mais
sûr.
Ça a été un crève-cœur
carrément,
de ne pas y aller.
C'est terrible.
Quand je voyais toutes les stories des potes à Avignon, j'étais « oh là là, j'aimerais trop y être ». Donc cette année, j'espère pouvoir y être. J'aimerais bien y retourner. J'ai un bon souvenir d'Avignon, donc...
Oui, apparemment, oui.
Voilà, j'ai pas le traumatisme du
non,
tout.
Non, voilà, c'est ça. Je te propose une deuxième question.
La trash.
Qui est un peu plus acide. Alors, elle n'est pas non plus trashy à mort, hein, mais je me suis dit, voilà. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je pense qu'avec toi, je peux me permettre.
Oui.
Alors, il s'appelle Pat65. Alors, sa question, c'est... Pourquoi ne pas avoir mis plus en valeur le côté italo-ch'ti dans le spectacle et avoir parfois cédé au comique facile?
Alors, je suis un peu d'accord avec lui sur des premières versions du spectacle, à vrai dire. Donc, ça ne m'étonnerait pas que ce soit quelqu'un qui l'a vu il y a un petit moment. Et effectivement, moi, il y a un moment, je me suis dit... donc, Pat, je suis d'accord avec toi. Il y a un moment, je me suis dit, il y a des vannes trop faciles.
Ouais.
Et c'était aussi le boulot là qu'on a fait cet été avec... avec Sylvain, c'était d'aller vers d'enlever un peu ce qui était trop cliché.
Mmh.
Et justement, dans la version que je fais depuis un mois et demi, enfin depuis septembre, quoi, le côté italien est vachement plus mis en avant et le côté donc italo-ch'ti aussi. En fait, on a vraiment, je pense, il y a un gros tiers du spectacle qui a changé parce que justement, je voulais aller un peu au-delà des clichés, ce qui était un peu facile. Et mettre plus en avant ce qui m'était plus personnel. Et quand je disais qu'il y aura sans doute dans quelques semaines une nouvelle version, c'est parce que je veux être encore plus dans quelque chose de personnel. Mmh. Donc non, je me prends pas mal parce que bonne analyse.
En fait...
Il y avait des trucs qui étaient trop faciles au début.
Voilà, oui, je pense que c'est quelqu'un qui a dû aller le voir, oui, je sais pas quand.
Ouais, sans doute, et honnêtement, bonne analyse, il y a un moment, c'était trop facile.
Oh, bah ça va, alors c'est pas si trash que ça, finalement, comme question.
Ah non, c'est pas trash, non, c'est une bonne analyse, et par contre, je dirais que le spectacle est même... Il est peut-être plus trash qu'avant, en revanche. Il est moins facile, mais il est plus trash.
À la sortie du spectacle, qu'on peut aller voir plusieurs fois, puisque c'est un work in progress.
Oui.
C'est malin ça, Élise, en fait, de faire ça comme ça. Je trouve ça hyper malin. À la fin du spectacle, donc, bah, on te retrouve à la sortie,
oui.
À la porte. Et ça a un côté hyper sympa et un peu surprenant. Parce que ouais. Tous les artistes ne le font pas.
Non.
Beaucoup ont besoin de retrouver la loge, de se poser, redescendre, pleurer ou rire, suivant l'accueil du public ce soir-là. Et toi, tu es à la sortie. C'est important pour toi de faire ça?
C'est important pour prendre tout de suite les commentaires aussi. Parce que même si... Heureusement, c'est pas arrivé souvent, mais il a pu m'arriver de faire une représentation où je sentais que le public n'était pas dedans, et ou en tout cas, peut-être c'était pas bien moi ce jour-là. Mmh. Et le fait d'aller à la sortie prendre des commentaires, parfois, ça permet aussi de relativiser. Parce que, et c'est un truc qui me rassure, parce que j'écoute beaucoup de podcasts humoristes. Souvent, on a l'impression, on se dit, ouais, le public se fait chier. Et en fait, quand on sort, ben, ah, c'était vachement bien. Sauf qu'en fait, c'est un public hyper attentif qui n'était pas forcément dans l'exubérance.
Voilà, c'est ça, pas expansif.
Voilà. Ouais. Et donc, pour moi, c'est hyper important de prendre tout de suite les retours qui soient négatifs ou positifs. Parce que de toute façon, s'il y a des retours négatifs, je vais bien les avoir un moment. Donc, autant que je les ai le plus vite possible. Quand je disais que j'aimais bien que les trucs durs soient faits tout de suite, ben, je préfère tout de suite me prendre les mauvaises critiques ou les trucs.
Mmh.
Et au-delà d'accueillir les gens dehors, moi, je vais systématiquement boire un verre avec les gens qui veulent.
Oui.
Et ça, c'est un moment que j'adore. Parce que, vu que je suis pas connue, ça m'intéresse aussi de savoir comment ils se retrouvent là, les gens.
Ouais.
Comment ils ont entendu parler du spectacle.
Bien sûr.
Et ça, on en parle vachement pendant le verre. Et je suis devenue pote avec certains spectateurs grâce à ça aussi.
Ah, c'est chouette.
Et genre des très bons potes aujourd'hui qui viennent à la base juste parce qu'on a partagé un verre. Et après, je suis ch'ti, hein, j'aime bien picoler aussi. Donc, c'est ma petite récompense, moi, mon petit verre de vin en sortant.
Tu retrouves en fait ce que tu disais au départ, là, le côté contact, partage,
ouais.
Famille, fête, ensemble.
Ouais. Et puis trinquer, c'est un geste qu'on prenne avec de l'alcool ou pas. Trinquer, c'est
oui,
un geste social hyper
sûr.
Important.
Ouais,
et dans le Nord, notamment, où il y a ce faire chapelle, comme on dit, à carnaval, c'est accueillir les gens pour prendre un coup,
oui,
prendre
oui.
un verre chez soi. Donc, ouais, moi, j'ai besoin de ça. Et puis, J'ai aussi la chance que le petit bistrot à côté est super. Il a même un plus ou moins investi dans le spectacle. J'avais lancé une cagnotte participative il y a quelques temps. Il a mis donc le bar s'appelle le Ticap. C'est un super pub. On est très attaché à ce petit pub qui est plus petit que les autres sur le boulevard Saint-Martin et qui est beaucoup plus familial, beaucoup plus sympa. Ouais. Et de faire le pot avec les spectateurs là, c'est génial parce qu'on peut vraiment se parler et c'est trop cool. Moi, c'est un moment que j'aime beaucoup, autant que le spectacle. C'est le moment d'après, c'est aussi bien que le spectacle.
Et pourtant, Élise, tu es seule sur scène.
Ouais, mais j'ai une équipe derrière moi. En fait, c'est ça qui change tout.
Bien sûr.
Après, clairement, quand ça se passe bizarrement, quand ça se passe pas bien, je préférerais limite que je n'ai pas d'équipe. Parce que moi, que ça se passe pas bien, je peux l'assumer. Par contre, de voir dans le regard de mon manager qu'il est triste ou qui est en stress. Alors, encore une fois, heureusement, il n'y a eu que quelques dates qui ne sont pas bien passées sur les 100 dates. Mais ça peut arriver aussi qu'il y ait quelqu'un de bizarre dans le public ou qu'il y ait un événement ou qu'il y ait un problème technique. Là, il y a eu un problème technique il n'y a pas longtemps. Je voyais dans les yeux de mon manager que c'était l'enfer. Alors que moi, je me dis, on va gérer, ça va aller. Donc, dans ces moments-là, je me dis, limite, je préfère être seule, pour pas devoir assumer le regard des autres. Mais en même temps, les moments où ça va bien, qui sont quand même 95% du temps, heureusement, pour l'instant, je suis bien contente d'avoir une équipe pour partager les bons moments, pour débriefer. Et ce qui est hyper important dans le fait d'avoir une équipe, c'est d'avoir du recul aussi.
Bien sûr.
Pour rebondir sur les blagues un peu faciles, évidemment, quand je sortais de l'école, j'avais tendance à être sur des blagues plus, peut-être, clichés. Et le fait d'avoir eu Quentin qui est venu, puis Sylvain, puis une aide à la mise en scène avec Jérôme Favier, ça a permis aussi d'avoir un recul et de voir ce qui était peut-être un peu trop cliché, ce qui était très bien au contraire, ce qui nécessitait d'être revu. Donc ouais, je suis seule, mais j'ai une sacrée équipe derrière moi et je leur dis merci beaucoup.
Eh bien écoute, Élise, on arrive au bout de notre papotage.
Qui était très agréable.
Effectivement, c'est la troisième fois en fait que je fais cette interview en face à face dans le petit studio cosy de Tsipora. Et c'est toujours, pour moi, super intéressant de rencontrer en vrai la personne que je vais interviewer.
C'est hyper sympa.
On est très proches, on est beaucoup les yeux dans les yeux.
Ouais.
Moi, ça ne me dérange pas.
Moi non plus.
J'aime bien.
Ouais, pareil.
Et du coup, parfois, on oublie. Enfin, moi, personnellement, j'oublie presque parfois que je suis en train d'enregistrer un podcast.
Ouais, complètement.
Donc, c'est cool.
Puis le lieu est trop bien. On est bien installé.
Carrément.
Puis la dernière fois, on l'a fait en vidéo. On avait nos chats respectifs qui passaient devant les grandes.
Oui, je me souviens. Oui. Hyper pratique. Oui. En tout cas, voilà. Donc, c'est une adresse de studio que je ne livrerai pas.
Voilà. Un trop beau secret à garder.
En tout cas, merci beaucoup, Élise. Donc, merci, du coup, ça veut dire qu'il faut que je retourne voir le spectacle dans sa nouvelle version.
Je vais pas t'en empêcher.
Cling, gros clin d'œil. En tout cas, merci. Et puis, évidemment, tous les liens pour aller voir Élise sont dans la description de l'épisode. Ciao, ciao.
Merci beaucoup, Isabelle. Ciao.
Voilà, vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Prendre vos billets pour la Belle Bourrine au Théâtre Beau à Paris. Vous pourrez ainsi rencontrer Élise et aller boire peut-être un verre avec elle dans ce chouette petit pub, le Ticap. Et aller aussi sur le lien YouTube pour regarder le portrait chinois filmé d'Élise. Sans transition, derrière la troisième porte des coulisses, c'est généralement Marion qui nous accueille. Marion, cette fois-ci, va nous dire tout ou presque sur la bataille d'Hernani.
Comment l'année 1830 a révolutionné le théâtre? Le 25 février 1830 se déroule à Paris la plus fameuse bataille que n'aient jamais livrée les hommes de plume et les artistes. Elle reste connue sous le nom de bataille d'Hernani, du nom d'une pièce de Victor Hugo, que l'on jouait ce soir-là pour la première fois à la Comédie Française. En effet, le drame romantique de Victor Hugo, Hernani, déclenche, au moment de sa sortie, une polémique si forte qu'on la qualifie de bataille. Victor Hugo, alors âgé de 27 ans au moment de la première, est déjà un écrivain à succès. Il anime le Cénacle romantique, l'un des salons littéraires confidentiels dans lequel se réunissent des jeunes romantiques en quête de gloire et de reconnaissance dans les années 1820. Le Sénat tient ses réunions chez Hugo lui-même, à Paris, rue Notre-Dame-des-Champs, dans la chambre aux lys d'or. Cette chambre tient son nom de la fleur remportée par Victor Hugo à l'âge de 17 ans aux Jeux Floraux de Toulouse. Dans ce cercle, on y rencontre Balzac, Nerval, Vigny, Musset, Dumas, le critique littéraire Sainte-Beuve. Bref, que du beau monde. Le jeune Hugo lit lors de ses réunions ses œuvres poétiques. Il fait figure de chef de file et sa puissance créatrice suscite l'admiration de ses invités. La réunion du 30 septembre 1829 est consacrée à la lecture d'Hernani. Elle annonce la prochaine bataille. On s'enthousiasme pour cette pièce qui brise les canons du théâtre classique, et notamment les trois unités de temps, de lieu et d'action énoncées par Boileau sous le règne lointain de Louis XIV. Arrive le jour de la première à la Comédie-Française. Et c'est Adèle Hugo, la femme de l'auteur, qui nous raconte dans son livre « Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie » publié en 1863, les heures précédant le spectacle. Je cite « Toute la bande entrée, la petite porte fut refermée. Voilà tous ces beaux jeunes gens obligés d'attendre depuis 3 heures jusqu'à 7 sur leur banquette sans pouvoir bouger. Sachant d'avance qu'ils allaient être mis sous le séquestre, ils avaient fait provision de pain, de cervelas, de fromage, de pommes, de tout ce qui pouvait être emporté dans les poches. Au moment qu'ils avaient arrêté pour leur repas vers 5 heures, ils se mirent à cheval sur les banquettes et formèrent, en se faisant vis-à-vis, des espèces de tables. Ils prolongèrent le plus longtemps possible cet attablement pour tuer le temps. Ils étaient encore à leur couvert quand le public commença à entrer dans la salle. Grande fut sa stupéfaction et celle des beaux messieurs et des belles dames en voyant ces individus barbus, chevelus, ayant poils partout sur la tête, dévorant de la nourriture accroupis à cheval, étendus sur les banquettes, tous dans des positions malaisantes et choquantes. Lorsque l'auteur se présenta chez son actrice avant le lever de rideau, comme il était à son habitude, Mademoiselle Mars lui dit, de cet air de maîtresse d'école rebelle qui lui était particulier, « Vous en avez de jolis amis, monsieur. Je vous fais mon compliment. Madame, vous serez peut-être bien aise ce soir de retrouver mes amis pour combattre vos ennemis, » lui répondit Hugo. Puisque désormais, selon l'auteur, il n'y a plus ni règles ni modèles. Les tenants de la tradition s'attendent au pire. Et ils ont raison. La pièce raconte l'histoire d'amour malheureuse d'un proscrit, Hernani, pour une jeune infante, Donna Sol. Au nom de la liberté du créateur, Victor Hugo ne respecte aucune des trois unités chères au théâtre classique. Sa pièce ne se passe pas dans un seul lieu, ni sur une période de temps réduite, et l'intrigue n'est pas unique. Hugo refuse aussi le rythme classique des Alexandrins au nom du respect du naturel. Ses personnages ne parlent pas en vers et ne font pas de rimes. Ni tragédie, ni comédie, la pièce mêle moments comiques et rebondissements tragiques. La rivalité entre le roi d'Espagne Hernani et Don Gomez da Silva pour Donna Sol entraîne à la fois de grands malheurs et des moments de joie. Hernani et Donna Sol se marient finalement, mais ils sont contraints au suicide. Les décors se succèdent, les personnages vieillissent en quelques mois en un entracte, la bienséance est ridiculisée, en témoigne une armoire à balais où est obligé de se cacher le roi d'Espagne. Remonté à bloc, échauffé par de longues discussions préliminaires, les jeunes Français et chevelus romantiques du parterre, parmi lesquels se signalent Gérard de Nerval et Théophile Gautier, revêtus pour l'occasion d'un gilet rouge flamboyant, insultent copieusement les perruques et les anciens des tribunes, qui restent eux fidèles aux règles classiques. Très vite, on en vient aux mains. On se bat et l'on joue du poing au milieu des fauteuils d'orchestre. Situation politique paradoxale, les opposants au drame, admirateurs du théâtre classique, sont des libéraux, voire des républicains, alors que les bruyants jeunes hommes barbus et chevelus groupés autour de Gautier sont pour la plupart royalistes et conservateurs. Hugo, chef de file des Jeunes France, assiste à la bagarre en gardant ses distances, toujours beau, élégant et strict. Les lendemains sont plus tristes. Victor Hugo s'apprête à publier un nouveau roman à succès, Notre-Dame de Paris, Et tout à son travail, il ne voit pas que les visites de Sainte-Beuve à son domicile ne sont plus guère motivées par des batailles poétiques. Sainte-Beuve est devenue l'amant d'Adèle Hugo et il rompt avec son ami. L'amertume d'Hugo transparaît dans l'intitulé de ses recueils de poésie suivants, Les feuilles d'automne, Les chants du crépuscule. La liaison engendre une haine tenace entre les deux anciens amis. Sainte-Beuve, dans ses articles, traite Hugo de polyphème et de cyclope. Ce dernier réplique en le traitant de Sainte-Bave. Mais Hugo ne tarde pas à prendre sa revanche avec l'actrice Juliette Drouet, qu'il rencontre à la faveur des répétitions de Lucrèce Borgia. Le cénacle se disperse, mais la fabuleuse créativité littéraire des romantiques n'en est encore qu'à ses débuts. Elle s'épanouira sous le règne tranquille du Louis-Philippe Ier. La révolution romantique ne s'est pas limitée qu'au théâtre. L'année d'Hernani et de sa bataille est aussi celle de la symphonie fantastique de Berlioz, où Berlioz ordonne à l'orchestre de murmurer, chanter, crier et même d'hurler, quand les anciens, eux, cherchaient une musique plus claire et distincte, en utilisant pour cela la sonorité native des instruments. De plus, l'œuvre comporte 5 mouvements et non 4, comme c'était alors la règle pour les symphonies de l'époque. 1130, c'est aussi l'année du Rouge et du Noir de Stendhal, et celle des Trois Glorieuses, une drôle de révolution sentimentale, violente et réactionnaire, à l'image de nos poètes et de leurs batailles. Voilà, maintenant vous savez tout ou presque de la bataille d'Hernani.
Et voilà, c'est terminé. Je vous retrouve sur le compte Instagram de l'Entrée des Coulisses pour échanger sur cet épisode et aussi vous donner d'autres informations comme les coulisses du podcast lui-même. N'hésitez pas à m'y faire signe et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et suivant la formule consacrée pour clore un épisode, vous vous souvenez de la phrase, vous la dites avec moi ? Oui, c'est ça. Allez, on referme les coulisses.